Jojo 3.0, tous les vendredis, de 17h à 17h30, du gaming, du sport, des nouvelles technologies, sur BLP Radio. Bonjour à tous, c'est Jojo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme tous les vendredis de 17h à 17h30 en compagnie de Quentin.
Salut tout le monde.
Et aujourd'hui on va évoquer le sport, donc on va évoquer les nouvelles règles qui ont été abrogées par l'IFAB. Puis nous parlerons un petit peu d'actualité par la suite. Et en deuxième partie, je vous propose de découvrir plus en détail Anno 1800.
Un jeu phare de la série des Anneaux, une nouveauté. Et puis en troisième partie, on aura comme d'habitude le jeu de la semaine,
qui sera American Fugitif. Jojo 3.0.
Et donc, première partie de l'émission, Jojo, tu voulais nous parler des règles du foot qui vont être mises en place à partir de la saison prochaine.
Exactement, des nouvelles règles qui concernent aussi bien football féminin que masculin, donc c'est en général pour tout le monde, et ça concerne vraiment les règles européennes pour l'instant, donc on est vraiment dans le cadre de l'Europe, et je vais vous les citer, ces nouvelles règles, donc vous allez me dire ce que vous en pensez, évidemment.
Oui, on va pas se priver, oui.
Voilà, donc je vais commencer par la première règle qui dit que maintenant toute notion d'intentionnalité de la main sera supprimée. C'est-à-dire que si par exemple je suis dans la surface de réparation, je tire une frappe et qu'un joueur a malheureusement laissé sa main en fait dans les parages, ça sera automatiquement sifflé, que ce soit involontaire ou volontaire, dans la surface de réparation.
Donc voilà, attaquant, visez les bras et puis vous obtiendrez des pénalties très faciles. Moi je suis assez circonspect par rapport à cette règle. Pour moi, l'intentionnalité de la main, c'était vraiment quelque chose d'important,
oui,
qui était souvent pas respecté, de moins en moins d'ailleurs avec la VAR, hein, n'importe quelle main, même involontaire, était sanctionnée.
Justement, ouais.
Je trouve ça vraiment dommage. Ouais.
Justement, je me demande pourquoi on met la VAR dans ces cas-là, parce qu'elle servait à ça, justement, c'était pour juger si la personne faisait main intentionnellement ou pas, et dans ces cas-là, sanctionner ou pas les deux parties. Maintenant, à partir du moment où effectivement, on arrive dans la surface et puis on s'amuse à tirer dans la main, j'ai envie de dire que oui, ça fera automatiquement pénalty, sans pour autant qu'il y ait des conséquences de carton ou de sanction. Mais bon, ça fait quand même une grosse sanction, donc c'est pas terrible, terrible.
Ouais, pour moi, c'est un peu le côté la facilité, quoi. Comme on n'arrive plus à juger l'intentionnalité, on enlève cette règle d'intentionnalité, mais ça règle pas le problème final, quoi.
C'est ça.
Une deuxième règle qui concerne toujours les mains ou les bras, mais sur les buts inscrits par les attaquants.
Voilà, alors sur les buts inscrits maintenant, de la main ou du bras, même de manière accidentelle, c'est-à-dire que si un joueur essaie de se créer une opportunité en fait après avoir obtenu la balle ou la possession ou le contrôle du ballon, s'il marque du bras ou même de manière accidentelle de la main ou quoi que ce soit, ça sera plutôt toléré. C'est-à-dire que si sur un centre je mets la tête et que le défenseur adverse la dévie de la main accidentellement, le but ne sera pas validé automatiquement.
D'accord.
C'est-à-dire que les buts contre son camp de la main qu'on a déjà pu voir ou du bras accidentel, ça n'existera plus.
Ah, je croyais que c'était seulement pour les attaquants, quand c'était un attaquant qui marquait.
Ça va dans les deux sens.
Ok. Une troisième règle, c'était... c'est plutôt un truc très logique pour le coup. C'est lors des remplacements. Avant, qu'est-ce qui se passait? C'est très souvent les joueurs qui souhaitaient gagner du temps allaient au poteau de corner à l'opposé.
Exactement.
Et puis ils faisaient mine de ne pas avoir entendu qu'ils étaient remplacés. Et puis ils mettaient voire deux minutes à sortir. Là maintenant, qu'est-ce que dit la règle?
La règle dit que lors des remplacements, le joueur pourra sortir par le chemin le plus court et non plus par le milieu du terrain, justement en serrant la main de son remplaçant. Parce qu'avant, il y avait une sorte de tradition, on allait motiver le remplaçant qui rentrait à la place. Maintenant, il pourra sortir du poteau de corner, de la ligne de touche.
Je trouve que c'est une très bonne règle, ça risque d'empêcher un peu des gains de temps.
L'avantage, c'est que ça empêche le gain de temps et puis derrière, ça n'oblige pas l'arbitre à rajouter du temps systématiquement à cause des remplacements qui a lieu.
Alors, la quatrième règle, alors celle-là, elle est un petit peu plus floue. Est-ce que tu peux nous en parler?
Alors oui, alors je vous la cite, c'est lors d'un coup franc, les joueurs perturbant les murs adverses pourront être sanctionnés. C'est-à-dire que quand il y a un coup franc, nous sommes attaquants, nous sommes par exemple à 20 mètres de la surface de réparation, on est sur un coup franc, il y a un mur qui est établi. Avant, ce que les joueurs s'amusaient à faire, c'était de un petit peu bousculer le mur, de pousser le mur, de manière à ce que la balle puisse passer entre des joueurs, à terre ou en l'air, etc. Et maintenant, ça sera interdit, c'est-à-dire qu'il y aura un seul mur comme à l'ancienne, un mur de l'équipe adverse, et les joueurs, ils iront soit sur la surface de réparation, soit ailleurs, mais ils ne pourront plus gêner le mur, ça sera interdit.
Ouais, alors après, la notion de perturber, elle est quand même difficile, je trouve, à juger. Est-ce que quelqu'un qui se met juste devant le mur sans bouger, ça perturbe? Ça me paraît un peu chou quand même.
Je pense que là où ils en parlent, c'est surtout ceux qui se mettent par exemple à côté du mur. donc qui au moment de la frappe pousse un petit peu légèrement le mur. Je pense que il parle plus de cette notion là. Maintenant, si on se met juste devant le mur sans bouger à quelques centimètres du mur sans rien faire, je suis pas sûr que ce sera considéré comme je dirais un geste dangereux ou considéré comme une faute volontaire.
Cinquième règle, bon là ça va être très rapide hein, parce que ça change pas énormément de choses sur les pénaux.
Alors sur les pénaux, le gardien il aura plus l'obligation en fait d'avoir les deux pieds sur la ligne, mais seulement un seul.
Bon, de toute façon ça a jamais été respecté cette
règle.
Ça
a jamais été respecté sauf dans certains cas où bizarrement on a refait tirer des pénaltys parce que justement le gardien s'était se jeté avant, avait pas les deux pieds sur la ligne, etc. Donc au moins ça sera réglé, ça évitera tout soupçon et toute polémique par la suite.
La sixième règle sur le 6 mètres du coup.
Oui, 6 mètres. Alors le ballon ne sera plus obligé de sortir de la surface de réparation avant d'être touché par un deuxième joueur.
Voilà, c'est... là à l'heure actuelle, hein, ce qui se passe, c'est que alors souvent c'est les gardiens qui tirent les 6 mètres, mais ou sinon si c'est le joueur, il doit passer la balle à quelqu'un qui est en dehors de la surface. Hein. Sinon c'est coup franc indirect pour les adversaires.
Donc ce coup franc indirect justement va être supprimé et du coup un joueur pourra tout simplement rentrer dans la surface de réparation. Tant qu'en fait il touche pas la zone des 6 mètres du gardien, il pourra facilement récupérer le ballon et relancer plus vite. Ça permet d'accélérer un petit peu plus le jeu par rapport à avant où le joueur devait s'écarter, attendre que tout le monde se place pour que le gardien puisse essayer de soit jouer avec son défenseur, soit dégager la balle.
Ouais, puis ça permet peut-être d'éviter trop de pressing haut, on va dire. Là, globalement, il va être impossible d'aller presser un joueur qui reviendrait dans sa propre surface pour toucher le ballon. Donc,
ça serait très compliqué, effectivement.
Et puis la dernière règle qui concerne là les avertissements, les expulsions par rapport au staff technique.
Alors du coup, concernant les membres du staff technique, maintenant sur le banc ils pourront être avertis et expulsés. C'est-à-dire que à l'époque c'était que l'entraîneur principal en fait qui prenait une sorte de carton rouge. Donc ils n'avaient pas de carton rouge réel, mais en gros c'était l'arbitre qui allait les voir suite à des manifestations, suite à des choses pas très concordantes avec l'arbitre qui l'expulsait au vestiaire. Maintenant ce qui va se passer, c'est que si que ce soit l'entraîneur adjoint, un kiné, peu importe le membre du staff technique, voire même les joueurs qui sont sur le banc, si voilà, ils expriment trop fort leur colère, ils auront un carton jaune comme les joueurs de terrain et ça sera un carton rouge s'ils continuent. Et à la différence des entraîneurs qu'on envoyait dans les tribunes, ils seront expulsés au vestiaire. C'est-à-dire qu'ils rentrent vraiment comme les joueurs, donc après ils se débrouillent pour gérer leur équipe.
Ok. Et donc tout ça sera mis en place en Europe sur la saison 2019-2020, c'est ça ?
Exactement.
Et on a hâte de voir ce que ça va changer. Pour terminer cette première partie, on voulait parler un petit peu de l'actu foot. Alors très rapidement, mercredi 12 juin, il y a eu le deuxième match de l'équipe de France féminine pour la Coupe du Monde. Un succès 2-1, c'est ça, face
aux
Norvégiennes.
Avec trois buts français, c'est-à-dire un contre leur camp, un pénalty et un super but sur centre.
Ouais, c'est donc Wendy Renard qui a mis le CSC, mais qui s'est quand même fait applaudir par le public derrière. Alors moi, j'ai vu qu'un petit bout de ce match-là. Par contre, j'avais vu le
4-0.
Le premier match, ouais, contre la Corée.
C'est ça.
La Corée, c'était assez faible, mais quand même, je trouve que l'équipe de France, il y a quelque chose.
Il y a du potentiel. J'espère qu'on aura évidemment cette première étoile côté féminine, parce qu'on ne l'a pas encore eue. Et l'avantage du football féminin, ce que j'apprécie particulièrement, c'est qu'ils ont un jeu propre, ça simule moins, et c'est vraiment beaucoup plus, c'est football, faut dire ce qu'est, c'est beaucoup plus technique, c'est beaucoup plus travaillé concernant par rapport aux hommes en fait, tout simplement. Donc c'est ça que j'apprécie chez les filles.
Ouais, puis même dans l'état d'esprit quoi, ça dit merci aux ramasseurs de balles qui rendent les ballons.
Effectivement, et pourtant c'est censé être logique.
Il y avait les Bleus garçons aussi qui ont joué il y a quelques jours, alors sur les éliminatoires de l'Euro. Une défaite contre la Turquie, un peu surprise quand même.
Défaite 2-0, effectivement un peu surprise. Les Bleus étaient pas du tout dans leur match. Je pense qu'il faut qu'ils redescendent un petit peu.
Zéro tir cadré. Hein.
Voilà. Faut qu'ils redescendent du fait qu'on soit champion du monde. Effectivement, c'est dommage parce qu'ils sont arrivés assez conquérants, mais ils étaient vite en désillusion et ça a donné un match pas terrible pour les Bleus.
Et puis, ils sont un peu rattrapés contre Andorre, 4-0, je crois.
Oui, effectivement, avec un magnifique retourné de Thauvin.
Ouais.
But franchement magnifique. Un Mbappé excellent. On a retrouvé un peu l'équipe de France, justement.
En déviation et tout. Bon, après, c'était très très faible aussi.
C'était très très faible en face, mais ils avaient besoin, je pense, de se remettre en confiance par rapport à tout ça.
Et puis quelques points transfert actu rapide. Alors on vient d'apprendre là Fernand Mendy qui vient de signer au Real Madrid. Voilà, qui va remplacer Marcelo peut-être.
Je pense pour une somme à peu près avoisinant les 50 millions.
On a aussi, donc là c'était un peu plus ancien, mais il y a Hazard aussi qui a signé au Real, un gros mercato du Real.
Du Real, ouais.
Côté français, on a Tata Roussanou, là, l'ancien gardien nantais, qui vient de signer à Lyon. Moi je trouve que c'est une bonne pioche pour Lyon, ouais.
C'est une très bonne chose, et puis Lyon est en train de se reconstruire. Hein. De toute façon, ils sont en train de changer d'entraîneur, comme Marseille qui a recruté Villas-Boas. Donc je pense que ça va faire du gros changement dans le côté mercato.
Sinon, côté Ligue 2, il y a la potentielle relégation administrative de Nancy et Sochaux pour des problèmes financiers. Donc c'est la DNCG là, qui s'est prononcée. Et a priori, voilà, il y aurait ces deux équipes qui seraient susceptibles de descendre en national pour des raisons financières. Voilà, on rappelle hein, d'ailleurs que de la nationale, Le Mans FC est monté suite à un match énorme.
Je suis d'accord. Et dernière petite info, la Ligue 1 à partir de la saison 2020-2021, donc la saison d'après, s'appellera la Uber Eats Ligue 1 parce que Uber Eats a racheté les droits entre guillemets de la Ligue 1.
Les droits de naming, ouais.
De naming, voilà.
Fini Conforama.
Exactement.
Voilà, ce sera la Ligue 1 Uber Eats. Je crois qu'on a fait un peu le tour de l'actu.
Effectivement.
On s'écoute une petite musique.
Alors je vous propose d'écouter Maman ne le sait pas, feat Nino et Niska.
Dans la ville, je revends le cannabis. Maman ne le sait pas. Je recroque mes potes tout près des haramis. Le canon devant la glace. Les plans qui crissent, on est revenu tirer sur ces fils de putain. Et j'ai qui blisse, veux pas voir m'en tirer. Faut que je m'éloigne de tout ça.
Attends, stop, laisse-moi le relais. Je vais leur expliquer c'est comment le délire. Deux semaines chrono, il connaît le délai. Sinon, on viendra le chercher pour salir. Les bruits, tu connais, ça c'est la zombie. Rivalité, on a grandi dedans. Depuis la journée, chercher la monnaie. Les cheveux poussent plus, on a pas vu le temps.
Il est tard que la maille rentre. On a trop serré la ceinture. Tout est gris dans le Santa, et ça pue les comptes dans le sextaire. On enlève l'opinion que du vert. On est les gérants du center. Le SAL est nécessaire pour mettre la famille à opère. Et dans la vie, je revends le cannabis, maman ne le sait pas.
Brigandé, crime organisé, c'est la vérité.
À minuit pile, j'ai fermé le renté, j'ai fait ce qu'il fallait pas.
La double clé, j'suis propriétaire, j'ai les clés de la cité.
Et dans la vie, je revends le cannabis, maman ne le sait pas.
Brigandé, crime organisé.
Fermez le hanté, je faisais ce qu'il fallait pas.
A double clé, je suis propriétaire, j'ai la clé de la cité.
Ils veulent nous ralentir, stopper le trafic. On est cramé dans les bails chico, on est cramé dans les bails chico.
Tout pour la gagne comme au classico. Je suis trop cramé, je n'ai plus de bigot. Je côtoie les vieux méchants loups, les boucs balafrés qui n'ont plus de chico.
Là, je suis avec Kachika, j'ai mis le plan dans le Cayenne. Espaigo validé, palma rempli d'espèces.
Là, ils comprennent pas ce qui se passe, on a fait danser leur fumeux. Nouveau Camus, nouvelle villa, nouvelle pétasse, comme ça tout est veineux.
Je crois pas que c'est fini, j'irai me cacher là-bas comme Fofana.
Maman m'a béni, je fais des festins avec Madame Obama.
Avec les Dingari, avec les Mouti Boutard, la nuit au Bimi.
Ni c'est méchant, ni ce cas c'est charron, tu connais la gimmick.
Et dans la vie, je revends le cannabis, maman ne le sait pas.
Brigandé, crime organisé, c'est la vérité.
À minuit pile, j'ai fermé le renté, j'ai fait ce qu'il fallait pas.
La double clé, j'suis propriétaire, j'ai les clés de la cité.
Et dans la vie, je revends le cannabis, maman ne le sait pas.
Brigandé, crime organisé.
À minuit pile, j'refermais le renté, j'faisais ce qu'il fallait pas.
À double clé, j'suis propriétaire, j'ai la clé de la cité.
Fais ce qu'il fallait pas. Dans la vie, j'revends le cannabis, mon monde ne le sait pas. Tiens bien.
Et deuxième partie de Jojo 3.0, on va parler d'un jeu vidéo extrait d'une série de qualité. La série Anno, et donc Anno 1800, qui est sorti le 16 avril 2019.
Effectivement, donc c'est un jeu Ubisoft, donc ils ont une très 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 grande série, donc on va pas tous les citer, mais pour n'en citer que quelques-uns, il y a le 1404,
excellent.
Il y a le 2204 aussi, enfin, il y a énormément de jeux. Et je voulais vous parler du dernier Anno, pourquoi ? Parce que c'est un jeu qui, pour moi, relève en fait tout le charme du jeu, toute l'histoire, donc... Juste pour vous baser un petit peu, c'est un jeu de gestion, donc complètement gestion. On est vraiment sur quelque chose d'assez, je dirais, pacifique, parce qu'on est vraiment sur des guerres commerciales plutôt que des vraies guerres comme on pourrait retrouver sur un Total War ou autre. C'est vraiment des guerres commerciales. Et le but du jeu, en fait, c'est, on a une petite entreprise. Le but, c'est de la monter petit à petit, en fait, pour atteindre les plus gros et pouvoir vendre un petit peu nos ressources à travers le monde.
Donc c'est un jeu de gestion en temps réel hein, quand
en
même.
Temps réel,
voilà,
oui.
On a le temps qui défile pendant qu'on fait nos actions. Et puis comme tu disais, extrêmement basé sur la gestion des ressources, des commerces, etc. Beaucoup plus que sur une partie guerrière. Alors sur le 1800, je sais pas, mais dans les anciens Anno, moi où j'avais joué, il y avait aucune gestion de la guerre, etc.
Alors là, ce qui diffère par rapport à d'habitude, c'est que effectivement, on a beaucoup de gestion de ressources. C'est-à-dire que par exemple, pour faire du savon, va falloir faire un élevage de porc, va falloir faire l'usine après pour traiter, etc. Donc on est sur de la ressource, on est vraiment dans du détail assez poussé. Tout ce qui concerne la guerre, en fait, on va avoir quelques petits bâtiments de défense et on va avoir des petits combats, je dirais, automatiques du style. On a des bateaux parce que c'est un jeu. Pour le rappeler, on est un petit peu comme si on était dans les Caraïbes, donc ça joue énormément avec des bateaux. Il n'y a pas de véhicules terrestres à proprement parler. En tout cas, les véhicules terrestres qu'on rencontre, on peut pas les s'en servir. Donc on se sert que de bateaux. Et sur les peu de combats qu'on peut avoir, c'est avec notre bateau, on va cliquer sur l'ennemi et puis il va faire son combat tout seul et ça se déroule automatiquement. Là où il faut se baser, c'est vraiment côté... petite entreprise, donc on débute sur une petite île, on a une petite entreprise, on essaie de l'expandre au maximum, d'exploiter les ressources, de regarder un petit peu les marchés actuels pour pouvoir vendre un maximum, que ce soit toutes ressources confondues, comme des bateaux aussi, parce que ça peut être des bateaux de guerre, des bateaux de commerce, etc. Et l'avantage de ce jeu, c'est que l'IA, en fait, elle est adaptative, donc c'est-à-dire que sur, les 4-5 premières heures de jeu, l'IA se laisse faire, donc c'est-à-dire qu'on est facilement premier, on arrive facilement à se débrouiller. Et au-delà des 5 heures, l'IA commence à s'adapter à notre manière de jouer, comment on va essayer de gérer la gestion de ressources, etc. Va nous menacer, va essayer de nous racheter notre île, va essayer de faire tout un tas de choses pour en fait nous mettre des bâtons dans les roues, mais crescendo. Donc c'est ce qui fait le charme de ce jeu. Sans parler de la pointe artistique qu'ils ont mis, c'est-à-dire que par rapport à tous les anneaux qu'on connaît, celui-là, il est encore un niveau au-dessus, niveau graphisme. Donc l'avantage, c'est que même en ayant une petite bécane, on peut faire tourner le jeu. Donc on n'est pas obligé d'avoir le dernier PC pour faire tourner le jeu. Et côté gameplay, en fait, on s'en lasse pas. C'est-à-dire que moi, particulièrement, j'ai une soixantaine d'heures de jeu dessus et je m'en suis toujours pas lassé. Il y a toujours quelque chose à faire, en fait. Toujours quelque chose à améliorer, toujours quelque chose à faire. Et l'avantage de ce jeu, c'est que on est plein de surprises, parce que même en faisant que ce soit le côté campagne, que je parlerai pas pour pas spoiler s'il y en a qui évidemment veulent acheter le jeu, mais même en côté escarmouche, donc où on fait une partie normale, on a toujours des petites quêtes, on a toujours des manifestations si on répond pas aux besoins de nos habitants, parce qu'il y a ça aussi, c'est que on recrute un petit peu des salariés qui nous font des ressources et qu'on va revendre pour avoir une espèce de plus-value. Et puis il y a 4 catégories sociales, donc du plus pauvre au plus riche.
Ouais, alors moi je me souviens c'était Anno 1404 je crois,
oui.
Où il y avait une grosse partie qui était mise sur le fait d'aller chercher des ressources dans plusieurs coins de la carte, puisqu'on avait des ressources différentes en fonction, oui, des climats. Est-ce que c'est encore le cas là dans le 1800?
C'est encore plus le cas, d'autant que maintenant à la base par rapport à 1404 comme tu disais, on peut conquérir les îles, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on arrive à poser un port dessus, on peut, l'île entre guillemets elle est acquise. Il y a des îles qui sont déjà acquises par d'autres ordinateurs, mais l'avantage c'est qu'on peut les racheter. On peut acheter soit une petite part, soit racheter toute l'île si on a les moyens. Donc oui, il faut toujours évidemment chercher à droite à gauche, toujours avoir un commerce d'échange, hein, tout simplement, soit vendre, soit acheter des ressources pour revendre, etc. Et l'avantage c'est que dans chaque île, il manque toujours la ressource essentielle dont on sera obligé d'aller soit acheter, soit aller chercher, quoi qu'il arrive. On va jamais tomber en fait sur une île où on a tout ce qu'il nous faut.
Ouais. On est obligé d'aller se balader.
Exactement.
La musique aussi en général est sur les anneaux assez entraînante. J'imagine que c'est encore le cas.
C'est encore le cas. C'est une musique assez entraînante qui s'adapte aux événements, parce que oui, effectivement, dans anneaux, même sur des escarmouches, il y a des événements. Donc ça peut être un feu de bâtiment, ça peut être une manifestation, ça peut être tout simplement des grèves, ça peut être tout un tas de choses qui fait que les musiques sont adaptées tout simplement aux événements qui apparaissent au niveau du jeu.
Et puis en termes de scénario, alors là où le 1404 c'était sur la découverte du nouveau monde, là où les plus récents, les futuristes étaient justement sur les côtés futuristes, là on est à l'aube de la révolution industrielle en fait, hein, donc ça doit être aussi très intéressant au niveau historique quoi.
Historiquement c'est très intéressant, on est toujours un peu sur la même base de la découverte du nouveau monde, mais sous différentes facettes, on aura des choix à faire évidemment, ça va tout simplement en fait modifier votre façon de jeu, de jouer, votre façon de jeu, et je pense qu'il y a deux fins dans l'histoire. Bon, moi j'en ai fait qu'une, mais à mon avis je pense qu'il y en a une deuxième.
Donc toi, après 60 heures de jeu, c'est un jeu que tu conseillerais?
C'est un jeu que je conseillerais pour une simple et bonne raison que si vous avez envie en fait de vous détendre le soir, d'être tranquille, vous pouvez y jouer, sachant qu'il y a un mode réseau qui est établi, donc on peut jouer à plusieurs en fait, on peut rejoindre un serveur où il y a un certain nombre de joueurs. Pour l'instant moi j'ai rejoint jusqu'à 24, mais je pense qu'il y a au-delà, mais je pense que 24 c'est pas mal, parce que comme c'est des serveurs pour l'instant qui sont hébergés chez l'hôte, donc s'il n'a pas une très bonne connexion c'est un petit peu compliqué, mais je trouve ça très intéressant. Et ils ont mis à jour récemment le fait qu'on puisse jouer en hors ligne, c'est-à-dire que jusqu'à présent il fallait absolument être connecté sur internet, ce qui a posé énormément de problèmes auprès de la communauté. Et très très récemment, il y a à peu près une petite semaine de ça, ils ont enfin mis le mode hors ligne, donc on peut jouer n'importe où, à n'importe quel moment, donc c'est quelque chose d'assez fabuleux là-dessus. C'est un jeu que je reconseille vivement, si vous voulez l'essayer, ou au moins aller regarder des vidéos et vous me dites ce que vous en pensez.
Donc Anno 1800 chez Ubisoft, et puis c'est venu le temps de la deuxième pause musicale là, Jojo.
On va s'écouter La Compagnie Créole, Le Bal Masqué.
Aujourd'hui, j'embrasse qui je veux.
Je veux deviner.
devinez, devinez qui je suis. Derrière mon loup, j'embrasse qui je veux, je veux. Aujourd'hui, tout est permis. Aujourd'hui, tout est permis. Tout est permis. Au bal masqué, ohé, ohé. Elle danse, au bal masqué.
Jojo 3.0.
Jojo 3.0. Et dernière partie de l'émission qui va être très rapide. Jojo, tu vas nous parler du jeu de la semaine, American Fugitive.
Alors c'est un jeu qui est sorti d'abord sur toutes les consoles, donc PS4, PC, Xbox One et Switch, qui est sorti le 21 mai. Et c'est un jeu indépendant pour la modique somme de 20 euros. Alors ce jeu, c'est un GTA-like. Alors j'appelle ça comme ça parce que c'est un GTA à l'ancienne pour ceux qui auraient joué à GTA 1 ou 2. Donc on a la vue du dessus avec des superbes graphismes travaillés, donc un petit peu fait à la bande dessinée. Et vraiment, on est vraiment sur un jeu indépendant. Donc c'est un jeu qui va vous coûter à peu près une trentaine d'heures. Et en gros, bah voilà, pour faire simple, on incarne un fugitif. Donc il s'est passé quelque chose, on incarne un fugitif. Et le but, ça va être de se venger de ce qui s'est passé à travers diverses missions. L'avantage de ce jeu, c'est qu'on peut tout braquer, on peut tout piller, on peut tout voler, mais de toute façon on est constamment poursuivi, donc on a un sentiment de pression qui fait ce jeu en fait un petit peu mon coup de cœur de la semaine.
C'est du solo ou il y a aussi un mode online?
Non, on est que sur du solo par contre, on reste vraiment sur du solo pur et dur, et c'est un jeu que je vous conseille honnêtement et furtivement, donc allez checker un œil. Je rappelle que ça coûte 20 euros en tout cas sur toutes les plateformes et n'hésitez pas à aller regarder.
Et juste pour terminer, donc ils annoncent ça comme un jeu très sandbox. Donc on a des missions de la campagne classique.
Exactement.
Et j'imagine on peut aussi, comme dans un GTA, aller chercher des missions annexes, c'est
exactement,
ça?
Exactement, on peut aller chercher pas mal de missions annexes. Il y a pas mal de missions secondaires. Il y a aussi plein de sauts à faire, plein de cascades. Il y a plein de trophées en fait à avoir de différentes manières. Donc oui, c'est quand moi je vous disais entre 15 et 20 heures, c'est vraiment la campagne principale. Après pour le reste, si on compte les quêtes annexes, etc., on en a pour une petite trentaine d'heures de jeu.
Donc pour l'instant plutôt bien noté sur Steam, sur Metacritic. On rappelle quand même qu'il est plutôt déconseillé à un jeune public.
Oui, effectivement, oui, c'est un jeu assez violent, donc plutôt pour à partir de 16 ans, ça serait l'idéal.
Eh ben très bien, je crois qu'on arrive à la fin de l'émission, Jojo.
Eh ben je vous dis à la semaine prochaine.
Salut tout le monde.
Jojo 3.0, tous les vendredis de 17h à 17h30, du gaming, du sport, des nouvelles technologies sur PLP Radio.